Parler d'un autre sujet donc, mais avant cela nous allons lire quelques versets. Tout d'abord dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Donc nous sommes à l'aube d'une nouvelle éternité, avec des nouveaux cieux, nouvelle terre. Et là il y a des promesses qui nous sont faites. Il est écrit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ses serviteurs le serviront. Apocalypse 19:5, il est écrit, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs. Vous qui le craignez, petits et grands. Louez votre Dieu, vous tous, ses serviteurs. Apocalypse 1, verset 1, il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il est intéressant de noter dans ces trois passages de l'Apocalypse, un passage où le verset 1 du chapitre 1, ce passage s'adresse à des chrétiens vivant à l'époque de l'apôtre Jean et répartis dans sept églises. Et dans ces sept églises, il y avait des serviteurs. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas dit, il n'est pas parlé de croyants, il n'est pas parlé de chrétiens, il n'est pas parlé de personnes qui marchent par la foi. Il n'est pas parlé de personnes qui sont justes, alors que les chrétiens le sont, puisqu'ils ont reçu la justice de Dieu. Il est parlé de serviteurs. Et dans les deux versets que j'ai lus précédemment, chapitre 19 et chapitre 22, là il est encore parlé de serviteurs alors que nous sommes dans l'éternité. C'est-à-dire que nous sommes ici-bas des serviteurs et nous serons des serviteurs pour l'éternité. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de créer des êtres qui soient des serviteurs de Dieu et des serviteurs les uns des autres. On a souvent tendance à, non pas à penser, mais c'est peut-être un petit peu subtil, c'est quand nous lisons par exemple les introductions des épîtres de Paul, où Paul se présente, Romains chapitre 1 verset 1 par exemple, Paul serviteur de Jésus-Christ, mais il y a cette idée, oui mais Paul c'est un apôtre. C'est quelqu'un qui est entièrement consacré à Dieu, moi je ne suis pas apôtre. Mais dans les passages que nous venons de lire, il est bien évident que le rôle de serviteur est demandé à tous. C'est que la caractéristique d'un chrétien, c'est d'être un serviteur. Alors c'est repris dans d'autres épîtres, je pense à l'épître aux Philippiens par exemple, il nous est demandé d'être le serviteur de tous, donc on voit dans tout le Nouveau Testament cette vérité qui apparaît, c'est d'être des serviteurs. Et tout comme tout à l'heure Éric dans son introduction parlait du fait que pour pouvoir suivre Dieu, il faut le connaître, ben de la même manière, pour pouvoir être un serviteur, il faut savoir ce que ça signifie. Parce qu'il y a différentes façons de servir. Il y a différents patrons aussi, mais là c'est pas le sujet, il y a différents maîtres, mais s'agissant du service qu'on doit rendre à Dieu, qu'est-ce que Dieu sous-entend par le rôle de serviteur ? Et nous savons que ce mot « doulos » en grec, « d-o-u-l-o-s », est un assemblage en termes de sens de serviteur en français, mais aussi d'esclave. Être un serviteur, c'est un mot très fort en réalité. Le mot « doulos », c'est pas quelqu'un que l'on engage pour certaines heures et puis ensuite il est libre de faire ce qu'il veut, comme dans un travail ordinaire et séculier aujourd'hui. Mais c'est pas un esclave non plus dans le sens où il va subir la colère du maître ou souffrir à cause du maître. Donc en ce sens-là, c'est pas esclave non plus. Mais c'est un serviteur qui est attaché au maître 24 heures sur 24. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a la notion d'esclavage. C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Et donc un doulos, et ça c'est le premier point que nous allons voir au travers de ce terme « doulos », c'est que un doulos, un serviteur, c'est quelqu'un qui est lié à une personne. Il y a un lien. Il y a un lien très fort. Ce qui est intéressant, c'est que l'humanité le sache ou pas, l'humanité est liée à quelqu'un aujourd'hui. L'humanité est liée à Satan. Depuis Genèse chapitre 3, lorsque Adam s'est soumis à l'autorité du serpent et qu'il a confié les clés de la création à Satan, l'humanité tout entière, sans le savoir, est liée au prince des ténèbres. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Jean dit que le monde gît sous la puissance du malin. C'est-à-dire que lorsque nous naissons, peu importe la vie morale que nous pouvons avoir, nous sommes liés à Satan. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons cru, nous avons été déliés de ce mauvais maître, mais nous sommes maintenant liés à Dieu tel que c'était prévu lors de la création. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne marche pas avec Dieu, il est vraiment porte-à-faux. Parce que d'un côté, positionnellement, il n'est plus lié à Satan, mais dans son comportement, il se comporte comme s'il n'avait pas été délié, donc il vit d'une certaine manière contre nature, alors qu'il a reçu la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est une nature de serviteur. Regardons Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas arrêté de servir. Et d'une certaine manière, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, c'était à la fois pour demander à ses créatures, notamment à l'homme, de le servir, de le glorifier, mais en même temps, c'était un service qu'il rendait à ses créatures, parce que le jardin d'Éden, c'était quelque chose de merveilleux. C'était une bénédiction. Et donc, il était au service de l'être humain. Et aujourd'hui, par la rédemption, c'est cette relation que nous devons avoir. Et c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous savez, on a tendance à voir à cause de notre éloignement de Dieu, et c'est amplifié en fonction de la culture dans laquelle nous vivons, mais aujourd'hui, si j'ai un travail, j'ai tendance à penser que ce travail, c'est pour moi. Le mariage, c'est pour moi. Les enfants, c'est pour moi. Les plaisirs, c'est pour moi. La vie, c'est pour moi. C'est un mensonge. Tant qu'un chrétien vit ainsi, il va vivre frustré. C'est pas possible. On peut pas avoir un mariage réussi en tant que chrétien si le mariage est placé sous la sphère du moi, de l'ego. Le mariage doit être placé sous la sphère de Christ. On se marie pour Christ. On se marie pour servir Christ. On est peut-être une personne seule, on est célibataire pour servir Christ. Nous sommes vivants pour servir Christ. Nous travaillons à notre travail et on honore évidemment le contrat que nous avons signé avec la personne qui nous a embauchés, et nous marchons dans l'intégrité, mais derrière cela, nous servons Christ, et ça sert de témoignage. Donc dans tout ce que nous faisons dans l'Église, peu importe, nous sommes là pour servir parce que nous sommes liés à quelqu'un, nous sommes liés à un maître, nous sommes liés à sa volonté. C'est aussi simple que ça. Et on voit l'apôtre Paul, pour citer que lui, qui servait Dieu lorsqu'il était à l'extérieur, en dehors des prisons, et il servait Dieu quand il était en prison. Ça ne changeait pas. Son statut changeait. Prisonnier, libre, ok, il a vécu diverses situations. Mais dans son esprit, il était toujours lié à son maître, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait partie de l'encouragement que l'on peut recevoir. Parce que si Paul en prison ne réalisait pas qu'il était le serviteur de Dieu, sa vie devenait vide de sens. C'était une perte de temps, les années en prison. S'il avait oublié, ça aurait été une perte de temps dans sa tête s'il avait oublié qu'il était serviteur de Christ. Mais quand nous sommes serviteurs de Christ et que nous marchons dans cette vérité, tout ce que nous vivons est une occasion de le servir. Même si ça ne nous arrange pas. Mais c'est une occasion de le servir. Doulos. Deuxième chose que l'on voit, s'agissant de doulos, c'est que c'est, faut prendre le contexte de l'époque, un esclave, pas toujours, parce que parfois l'esclave l'était devenu suite à une bataille ou à une conquête romaine, par exemple, et la population devenait esclave. Mais en règle générale, les esclaves l'étaient par naissance. Tout comme aux USA, c'était la même chose après. Il y a eu des esclaves qui ont été capturés en Afrique, qui ont été déportés en Amérique du Nord, et ensuite les enfants naissaient esclaves. Donc ils étaient, non pas par nature, mais leur statut social leur était imposé dès le départ. Et c'est exactement la même chose pour nous, c'est-à-dire que lorsque nous sommes nés, nous étions déjà des enfants de désobéissance. Lorsque nous sommes nés, nous étions prisonniers du péché. Nous étions esclaves du péché, dès notre naissance. On ne pouvait rien faire d'autre que de pécher. Nous étions pécheurs par nature, enfants de désobéissance par nature. Et aujourd'hui, que sommes-nous ? Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu la nouvelle naissance. Et donc, dès la nouvelle naissance, nous appartenons au Maître. Tout comme dès notre naissance, nous appartenons au prince de ce monde, nous appartenions au péché, au mal, dès notre nouvelle naissance, nous avons appartenu à Dieu, par Jésus-Christ. Ce qui fait que nous le servions ou pas, le problème n'est pas là, nous lui appartenons quand même, par notre statut, par notre nouvelle naissance. Et encore une fois, lorsque je n'accepte pas ce fait, je vis à l'encontre de la destinée qui est la mienne. Tout comme un esclave, plutôt un fils d'esclave, sa destinée c'était d'être esclave. Les Grecs avaient des esclaves, et donc on parle souvent, vous savez, de la démocratie grecque, et c'est cité souvent en exemple en Occident, notamment en France, mais en réalité c'est pas... Je veux dire, la cité grecque, c'était une petite bourgeoisie et une élite qui était démocrate, et les autres n'avaient aucun droit. Les païens n'avaient aucun droit, et donc les païens étaient esclaves. C'était des citoyens de même pas de seconde zone. Ils n'avaient aucune valeur aux yeux de la soi-disant démocratie grecque. Mais Dieu nous a donné une valeur parce qu'il nous a donné une nouvelle naissance. Nous sommes maintenant héritiers d'un roi. Nous sommes enfants de Dieu. C'est plus la même chose. Et vous savez, quand on est dans une famille, d'une certaine manière, on est esclave de sa famille. Parce que d'abord, ce sera toujours notre famille. Et puis, quand on la sert, quand on l'aime, quand on agit pour elle, que ce soit pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos épouses, pour nos époux, pour nos enfants, ce que nous faisons, c'est une forme d'esclavage, c'est-à-dire que c'est une consécration, nous sommes liés. Mais pourtant, nous le faisons parce que nous, j'espère que c'est le cas, parce que nous aimons. Et c'est là où il y a une différence. C'est-à-dire que nous sommes esclaves de l'amour de Dieu, nous avons reçu l'amour de Dieu, Romains 5:5, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur, et depuis ce moment-là, par nature, nous servons parce que nous l'aimons. 2 Corinthiens 5:14, l'amour de Dieu nous presse à servir. Quelqu'un qui ne veut pas servir ne vit pas dans son statut que Dieu lui a donné, mais ça signifie derrière cela qu'il n'est pas pressé par l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne discerne pas l'amour de Dieu pour lui. Il ne l'accepte pas cet amour, il n'y croit pas, ou alors il n'a pas été enseigné dans l'amour de Dieu, ou alors il n'a pas eu d'exemple devant lui de personnes qui aiment Dieu. Mais lorsque nous croyons dans l'amour de Dieu pour nous, nous ne pouvons pas faire autre chose que de servir. Nous ne pouvons pas faire autre chose. C'est par nature, c'est par notre nouvelle naissance, c'est comme ça. Ce qui fait que quand un chrétien ne sert pas, et je rappelle une chose, que faut être concret, comment discernons-nous un serviteur de Dieu? C'est très simple, il sert les hommes et les femmes. Parce que servir Dieu, c'est pas une idée abstraite. Servir Dieu, c'est servir les autres. C'est comme lorsqu'on donne notre dîme, on donne la dîme à Dieu, on donne nos offrandes à Dieu, mais on met pas l'argent dans une boîte en disant quand on ira au ciel, on lui apportera. D'accord? L'argent sert après aux hommes, l'électricité, la location du local, les chaises sur lesquelles vous êtes assises, c'est pas Dieu qui s'assoit sur les chaises, c'est pas Dieu qui a besoin d'électricité. Donc ça revient vers les hommes en réalité. Donc l'argent qu'on donne à Dieu, c'est aussi pour ceux qui enseignent, en l'occurrence moi-même, je profite, dans le bon sens du terme, de votre engagement de donner la dîme et les offrandes à Dieu. Mais du coup, ça revient à un homme, ça revient à des serviteurs. Et de la même manière, de façon plus générale, servir Dieu, c'est servir les hommes, tout le temps. c'est servir sa génération, servir l'Église d'abord, comme le dit l'apôtre Pierre, faites du bien à tous, surtout aux gens de la maison de Dieu. Ça va à l'encontre d'un certain concept chrétien, on doit s'occuper des perdus d'abord, c'est un mensonge, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on doit faire du bien à tous, donc même ceux du dehors, mais surtout aux gens de la maison de Dieu. Et je suis étonné de voir des fois des chrétiens ne pas avoir de maison de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'église, ne pas servir les gens de la maison de Dieu, ne pas des fois aimer les gens de la maison de Dieu, ça n'a aucun sens. Parce que, par définition, un serviteur de Dieu va servir les frères et les sœurs, ceux qui font partie de la famille de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, nés de l'amour, et on est esclaves de cette vérité. Et c'est pour ça qu'on est serviteur. On est esclave de cette vérité. On est esclave de l'amour de Dieu pour les autres. Troisième chose, c'est que être un doulos, c'est d'être lié à une personne, sous-entendu un maître, tant que ce maître est vivant. Lorsqu'un esclave naissait en Grèce, à l'époque où Paul écrivait, par exemple, ou l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, c'était même au temps des Romains, que ce soit les Grecs ou les Romains, c'était la même chose. Mais vous apparteniez à un maître. Mais une fois qu'il était mort, bien entendu, vous apparteniez à un autre. Eh bien, nous, il y avait une autre possibilité aussi, c'est on n'était plus esclave quand on mourait soi-même, par définition. Et nous, nous avons ce privilège extraordinaire, tout comme nous n'avons pas payé la dette de nos péchés, c'est Christ qui a payé la dette à notre place. Ben de la même manière, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché et de Satan sans mourir. Pourquoi ? Parce que nous sommes morts en Christ. C'est par la mort en Christ, c'est par notre identification dans le fait que Christ est mort à ma place. Et donc, lorsque Christ est mort, c'est moi qui suis mort. Et donc, parce que je suis mort en Christ, je suis délivré de l'esclavage dans lequel j'étais. Je n'appartiens plus au diable et je suis délivré du péché. Mon destin était lié à ma propre vie. Tant que j'étais vivant, j'étais toujours esclave du péché. Mais Dieu a collé mon destin au sien. Et par Jésus-Christ, il est mort à ma place. Et j'ai été délivré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une relation avec un autre maître qui est Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette relation ne s'arrêtera pas. Pourquoi ? Parce que Christ ne mourra jamais. Mon maître ne mourra jamais. Je lui appartiens pour l'éternité. Je suis un doulos pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'en Apocalypse 19 et 22, les croyants sont encore appelés des serviteurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu sur la terre et nous serons serviteurs de Dieu dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. En d'autres termes, apprenons à servir Dieu dès maintenant. Apprenons. On est préparé à régner avec Christ. Et parce que nous nous identifions à notre mort en Christ, lorsque nous acceptons le salut, la relation avec Satan avait été brisée dans sa mort, dans la mort de Christ. C'est pour ça que Paul a pu écrire, Philippiens 1:21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Parce que même en mourant, Christ resterait sa vie. Même en mourant, il continuerait d'être serviteur de Christ. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est notre position. La quatrième chose que nous voyons, s'agissant d'un serviteur, c'est que la volonté du doulos, de l'esclave, est absorbée par la volonté du maître. C'est-à-dire que le matin, lorsque le maître disait, ben voilà, tu vas, je sais pas moi, si c'est un agriculteur, tu vas me labourer son champ, quelle était la volonté de l'esclave pour sa journée? C'était de labourer le champ. Il n'avait pas d'autre volonté que la volonté du maître. Peut-être qu'il aurait eu envie de faire autre chose. Et d'ailleurs, ça nous arrive à nous plus d'une fois. N'avez-vous pas envie de faire autre chose que ce que Dieu vous demande? Ça nous arrive plus d'une fois. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'obéir. C'est qu'en tant que serviteur, on obéit. Et donc, on fait confiance au maître. On aime le maître, nous croyons que le maître nous aime, et nous appliquons la volonté du maître plutôt que notre volonté. Et c'est exactement l'attitude qu'a eu Jésus lorsqu'il prie à Gethsémané, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ était esclave du Père. Il était doulos du Père. Il accomplissait la volonté du Père. Et donc, vous savez, ça va au-delà de simplement suivre un rituel, je vais à l'église le dimanche, je lis ma Bible de temps en temps, je passe un coup de fil ou donne un petit SMS à un frère ou une sœur, vive la communion fraternelle. On peut obéir à ces principes apparents et extérieurs sans être un doulos. On peut faire exactement ce qu'on veut. On peut être même dans une église et ne pas accomplir la volonté de Dieu, ne pas être dans le service que Dieu nous demande, ne pas avoir le comportement que Dieu nous demande, ne pas mettre en pratique la vérité que Dieu nous demande d'appliquer. Et ce que Dieu veut, par la sanctification, c'est nous sortir de ce comportement d'enfant désobéissant. Rappelez-vous, alors là, il parle à de personnes très particulières, il parle des pharisiens. Mais à la limite, les pharisiens, même si c'était des religieux qui connaissaient la Torah et qui s'opposaient frontalement à Jésus-Christ, de toute manière, on était tous destinés, comme les pharisiens, à aller en enfer. Mais regardez ce que Jésus dit en Jean 8, 44 des pharisiens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Satan est un meurtrier dès le commencement. Et de quoi Jésus parle? De quel commencement il s'agit? Il s'agit de Genèse chapitre 4, lorsque Caïn a tué Abel. Et c'est pour ça qu'il parle aux pharisiens de cette manière assez dure, parce que Caïn, c'est le type du religieux qui fait les œuvres de la chair. Le travail du sol, où il faut transpirer, c'est l'homme qui doit faire les choses. Abel, lui, c'est celui qui, par la foi, amène le sacrifice de sang. Et donc, Satan est opposé à l'œuvre de Christ, il est opposé au versement du sang, qui nous purifie de tout péché, et donc il est meurtrier dès le commencement. Et les pharisiens étaient meurtriers aussi parce qu'ils avaient le Père comme diable. Mais nous, aujourd'hui, nous avons comme Père Dieu et sa volonté est la nôtre. Le diable, sa volonté, c'était d'être un meurtrier, c'est ce qu'il a projeté sur la race humaine, mais aujourd'hui, c'est le Père qui veut accomplir sa volonté en nous. En Philippiens 2, versets 20 et 21, Paul écrit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Et regardez, là, je vous disais tout à l'heure que servir Dieu, c'est servir les hommes. Dans la deuxième partie du passage, dans le verset 21, Paul fait un constat, il dit « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. » On comprend. Mais regardez verset 20, le verset précédent. Parce que le verset 21 est la conclusion d'un fait concret, d'une situation précise. Il dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Donc ça veut dire que lui voyait le besoin des Philippiens et il ne trouvait pas d'aide des gens dans son entourage pour l'aider à prendre en main la situation que traversaient les Philippiens. Donc ça, c'est une situation que Paul traversait. Mais derrière ça, il donne une explication spirituelle. Ils cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'intérêt de Paul pour les Philippiens, c'était l'intérêt de Jésus-Christ pour les Philippiens. Et donc servir Christ, c'était servir les Philippiens. Et c'est là où, en tant que doulos aujourd'hui, nous sommes absorbés lorsque nous sommes spirituels par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de prendre soin des Philippiens, et Paul était absorbé par cette volonté. Tout comme on évangélise, pas parce que c'est une loi, mais parce qu'on doit être absorbé par la volonté de Dieu, être conscient de la destinée des âmes, de voir l'apport que le bienfait que ça peut produire dans une âme si elle entend l'évangile. On est absorbé par la volonté de Dieu. Est-ce que, selon 2 Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Oui. Eh bien, on va être absorbé par cette volonté et on va évangéliser. Est-ce que Dieu veut qu'on le loue? On va être absorbé par la louange. Moi, quand je discutais avec certaines personnes, dernièrement, là, j'ai eu 2-3 conversations, et je me suis aperçu, à mon gros regret, que les gens ne louent pas Dieu lorsqu'ils sont seuls. On loue pas Dieu que lors des chants, là, mais est-ce que les chrétiens prennent du temps dans leur maison, peu importe où, dans un coin tranquille, plusieurs fois par semaine, dire « Seigneur, j'ai envie de te louer, parce que tu le mérites. Seigneur, je te loue. » et on confesse le nom de Dieu, on se prosterne, on s'agenouille si on veut, si on veut être debout, on est debout, si on veut être assis, on est assis, il n'y a pas de position plus spirituelle qu'une autre, mais d'être concentré parce que on est dans les cieux et on loue ce Dieu de gloire et on le confesse. Personne ne nous regarde, on est seul, mais Dieu nous regarde et on loue Dieu. Et on est absorbé par sa volonté. Est-ce que Dieu veut qu'on le loue? Bien sûr, Seigneur, donc je te loue par la foi, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne suis pas en état de te louer. Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai trop de soucis, je t'en veux, j'ai péché. Je confesse mes péchés, je me tiens dans ta présence et Seigneur, je te loue. Je suis absorbé par ta volonté. Et mes amis, c'est une très bonne école d'humilité de louer Dieu seul. Très bonne école d'humilité. Preuve en est, essayez de le faire alors que vous n'avez pas envie. Et vous allez voir l'orgueil, comment il est prégnant. Je vous encourage à louer Dieu. Soyez absorbés par la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on prie, soyons absorbés par la prière. Dieu veut qu'on exalte sa parole, exaltons, étudions sa parole. Dieu veut qu'on aime les frères et sœurs, soyons absorbés par sa volonté. Dieu veut qu'on soit consacrés à lui, soyons absorbés par sa volonté. Vraiment. Dieu nous demande de prendre notre croix chaque jour, soyons absorbés par cette volonté. Un esclave, un doulos, veut faire la volonté de son maître. C'est tout. Il appartient au maître. C'est lui qui décide. La cinquième chose que l'on voit, et là ça fait mal parfois, c'est qu'on va servir une autre personne, en l'occurrence Dieu, à notre détriment. Comme je disais tout à l'heure, lorsque le maître demandait quelque chose à ses esclaves, les esclaves n'avaient peut-être pas envie d'obéir, mais on va le faire à notre détriment. Jésus a obéi à son Père à son propre détriment. Ça lui a coûté d'obéir à son Père. Et c'est pour ça que toujours en Philippiens, Paul dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez ceux des autres. Ça va être contre notre intérêt. Et c'est intéressant de voir que parfois, quand des gens veulent plus servir Dieu ou autre, ils vous donnent la liste des gens envers qui ils sont aigris, le pasteur, il n'a pas fait ci, telle personne avec qui j'ai travaillé. Oui, mais d'accord, essayer de régler les problèmes, mais là, tu es en train d'imposer tes propres intérêts. Tu es en train de te venger, tu te protèges, tu prends pas ta croix. Non, on vient à la lumière. C'est pour ça que Jésus dit, si tu as un problème avec un frère, tu vas le voir seul à seul. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt du royaume de Dieu que de régler les problèmes entre les frères et sœurs. C'est de l'intérêt de Dieu que de s'humilier. C'est l'intérêt de Dieu que de marcher par la foi. C'est l'intérêt de Dieu que d'aller contre sa propre volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, être un doulos, c'est pas rien. Et en même temps, ça fait partie du plan de Dieu. Et ça fera partie du plan de Dieu pour l'éternité. Ça bénit Dieu de voir des serviteurs. Pas des serviteurs qui sont sous la loi. C'était pas le plan de Dieu qu'on serve d'une façon légaliste. Mais qu'on serve en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que notre vie, elle est liée à lui maintenant. Elle est plus liée à une autre personne. Pourquoi? Parce que par nature, on a une nouvelle naissance. Nous sommes nés esclaves, doulos de Dieu. C'est notre destinée. Et on a une relation avec lui en tant que doulos qui ne s'arrêtera jamais parce que notre maître ne mourra jamais et nous-mêmes, nous mourrons jamais. Nous avons reçu la vie éternelle. Donc c'est une relation éternelle qu'on a avec lui. C'est une fonction doulos où la volonté de notre maître, notre Seigneur, nous absorbe. On est imprégné par sa volonté. On est concentré sur sa volonté. Nous sommes motivés par sa volonté. Et enfin, on accepte de servir même à notre détriment, même quand ça ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu m'as racheté de l'esclavage du péché pour me faire vivre la meilleure vie qui soit, celle que tu me proposes, et je viens vers toi comme un serviteur inutile, mais que tu vas utiliser. Que Dieu vous bénisse.